Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Nous partons en baie de Somme, à Paris aussi d'ailleurs, avec l'album qui nous est proposé aujourd'hui, qui s'appelle « Automne en baie de Somme ». C'est une parution bambou dans la collection Grand Angle plus précisément, on y reviendra dans quelques instants, avec Philippe Pélaz au scénario et Alexis Chabert au dessin et aux couleurs, il faut le préciser là, très très important, puisque ce sont des couleurs directes. Alors on s'arrête deux secondes sur ces auteurs. Philippe Pélaz, je pense que c'est ainsi qu'on prononce son nom, nous avait proposé par exemple Bagnard de guerre ou Le bossu de Montfaucon. Thierry, des ouvrages que vous aviez aimés?
Des ouvrages que j'avais lus sans me presser de les ouvrir, et j'avais tort. C'est des scénarios très subtils, notamment en ce qui concerne Bagnard de guerre, après Pinard de guerre, le contexte du bagne, la volonté de survivre à des conditions extrêmes. Une histoire très cinéma, je cite le terme de cinéma parce que Bambou Grand Angle, évidemment c'est une allusion au cinéma. Tous les types de cinéma, le cinéma de qualité populaire, la BD de qualité et populaire. Et Le bossu de Montfaucon, c'est le personnage de Quasimodo, le personnage réutilisé dans un contexte historique avéré, des aventures historiques fort convaincantes, donc une excellente surprise, de très bons albums.
Et du côté d'Alexis Chabert, eh bien, il y a pas mal de biographies, on avait partagé celle de Sacha Guitry en particulier, il y a eu aussi de Funès, etc. Et puis on peut mentionner la série Bourbon Street.
Beaucoup d'atmosphère, le jazz, les ruelles enfumées, les nightclubs. Une vraie subtilité dans le dessin. Oui, beaucoup d'atmosphère, une capacité à recréer une époque qu'on va retrouver avec bonheur dans Automne en baie de Somme.
Voilà, alors ici on est dans la collection Grand Angle. Vous parliez de cinéma en BD, c'est le cas. C'est assez populaire, mais fort réussi.
En l'ouvrant, je m'attendais à une BD historique. Eh bien, pas du tout. C'est un polar. C'est un polar art nouveau, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'on est au début de siècle. On est quelque part entre la période artistiquement parlant, donc de l'art nouveau, des impressionnistes, des Apaches.
Mais pas les Indiens.
Oui, les Apaches de la butte Montmartre. C'est nos Apaches à nous. En baie de Somme, on va retrouver un voilier. Sur ce voilier, le cadavre d'un riche industriel. À l'autopsie, on va s'apercevoir que ce riche industriel a été empoisonné avec un poison qui vous fait mourir dans d'atroces souffrances. Pourquoi a-t-il été empoisonné? C'est d'autant plus incompréhensible que c'est un riche industriel, mais très paternaliste, qui paye bien ses ouvriers, qui veille à s'ils aient des conditions d'existence et de travail tout à fait satisfaisantes. Donc il est très en avance par rapport à la moyenne des patrons de son époque. Voilà, c'est un homme qui est généreux, altruiste, insoupçonnable. Enfin, il n'a pas d'ennemis, comme on dit dans tous les bons polars. Donc, qui peut l'avoir tué ou avoir commandité ce meurtre? L'inspecteur de police qui est dépêché sur cette enquête, c'est un cadre de la préfecture, va tout de suite soupçonner sa veuve. Parce que sa veuve, c'est une femme qui est manifestement aprogain. D'ailleurs, une des premières décisions qu'elle prend, c'est « Messieurs les actionnaires, je vais exercer la direction de cette affaire. Et puis, on va changer beaucoup de choses. D'abord, tous ces avantages aux ouvriers, ça nous fait perdre beaucoup d'argent. Mieux vaut le redistribuer aux actionnaires. Vous êtes d'accord? Oui, nous sommes d'accord. Donc, changement complet. C'est la coupable tout désignée. Sauf que, le riche industriel avait une maîtresse, la fameuse Automne.
Automne qui est présente sur la couverture du livre.
Alors pourquoi Automne? Parce qu'elle est rousse et que c'est le surnom que lui a donné Moucha, Alphonse Moucha, le célèbre artiste art nouveau, parce que la couleur de ses cheveux lui rappelle la couleur des feuilles en automne.
On pourrait presque croire effectivement à une BD historique, Thierry. On a l'impression qu'on reprend des personnages existants et que tous les éléments se rassemblent du puzzle.
BD historique, oui. Polar historique, oui. Moi, j'ai pensé aux Brigades du Tigre.
Ah, tiens. À cause des moustaches?
Entre autres, oui. Mais BD féministe au sens large du terme, parce que chaque chapitre est précédé d'une citation d'une, alors comment on pourrait appeler ça, d'une féministe de l'époque, d'une suffragette, on est un peu grosso modo dans cette période-là, un texte violemment polémique qui fait allusion aux avortements clandestins. Alors, j'apprendrai à personne que c'est l'époque, c'était avec des aiguilles à tricoter, donc c'est effroyable même d'imaginer ce qui se passait et la façon dont c'était pratiqué et qui débouchait sur au mieux une mutilation, au pire la mort dans d'atroces souffrances dans la majorité des cas. Cette question des avortements clandestins, ça va être un élément très important dans l'intrigue. Je n'en révèle rien, mais c'est un élément très important dans l'intrigue et qui touche aussi bien la majorité des femmes dont le destin est évoqué dans cet album, que l'entourage immédiat de l'inspecteur. Donc il y a une affaire personnelle qui est menée en même temps que la résolution de ce crime inexplicable.
Oui, c'est pas évident d'en dévoiler suffisamment, mais pas trop, pour permettre la lecture à nos auditeurs.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'on navigue d'un monde à l'autre, du monde de la richesse, de l'industrie, des gens bien nés, qui ont une vie confortable et qui usent et qui abusent des femmes du peuple qui posent pour les peintres, dans le meilleur des cas, dans le pire, qui se prostituent. Et dans le pire des pires des cas, sont amenés à pratiquer les avortements. Et je m'arrête là parce que, voilà, c'est le point central de l'intrigue.
Ce que l'on peut mentionner tout de même, Thierry, c'est qu'il y a un coup de théâtre absolument phénoménal à la fin de l'album. Alors, ça incite à la lecture, là encore.
Ah bah, la relecture, parce que ce qu'on croyait avoir compris, on découvre que c'est pas du tout ça et que l'enquête reprend à zéro. La semaine dernière, on parlait de 60 printemps en hiver en disant que c'est un album qui aurait mérité quelques planches supplémentaires. C'est un peu le cas ici aussi. Alors, peut-être pas un tome 2, quelques planches supplémentaires, oui, parce qu'il y a quelques pistes qui sont ouvertes en fin d'album qui auraient pu être menées à leur terme. Ou alors, fallait-il les passer sous silence? En tout cas, c'est une très bonne surprise. Enfin, est-ce que c'est une surprise? C'est une très bonne lecture et surtout, c'est un ravissement pour les yeux.
Est-ce que les auteurs se réservent un peu d'espace? Je reviens sur le ravissement dans quelques instants.
Qui sait? Bon, a priori, l'histoire est complète. Il y a la résolution de quelque chose. Mais j'en dis pas plus parce que je suis toujours au bord de révéler des éléments déterminants.
Alors, concernant le dessin, la mise en couleur, j'avais précisé tout à l'heure qu'Alexis Chabert fait ce dessin, mais qu'il réalise les couleurs directes. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Rappelez-nous.
Je pense, j'en suis même sûr, qu'il utilise des techniques de dessin de mise en couleur très très variables, avec des outils très différents les uns des autres, pour aboutir à la mise en couleur directe, c'est-à-dire le fait d'appliquer les couleurs en direct sur sa planche originale. Alors c'est très difficile, c'est un peu comme l'aquarelle, c'est-à-dire que ça pardonne pas, que si c'est raté, c'est complètement raté, et il faut tout refaire, mais si c'est réussi, ça donne une beauté, une qualité d'évocation de chaque image qui est incomparable.
C'est une véritable œuvre sur ce plan-là.
C'est important pour un album qui fait une allusion tout au long de son déroulé à l'époque artistique. On disait Art Nouveau, Mouchat, les affichistes, les premiers affichistes, les impressionnistes, parce qu'on n'est pas très éloigné de cette période-là. Un album d'une grande élégance visuelle qui contraste avec la noirceur de l'intrigue. Une intrigue qui va se noircir au fur et à mesure du fait du déroulé des événements.
D'ailleurs, il joue avec ça, hein, Alexis Chabert et probablement Philippe Pélaz aussi au scénario, parce qu'il y a des planches qui sont avec un fond blanc et d'autres avec un fond noir.
C'est un album qui est tout sauf classique ou alors d'un classicisme supérieur. C'est pour ça qu'on a pensé à en faire la chronique. C'est que c'est un album à côté duquel on pourrait passer. Et en fait, il réunit beaucoup de qualités antagonistes. On lisait le message féministe dans une histoire, dans un polar historique. La beauté des dessins par allusion à une époque au sens esthétique du terme. Et puis, là, une qualité d'écriture. Je parle pas seulement des extraits de texte en tête de chapitre, mais même les dialogues sont très bien écrits.
Ce qui est absolument essentiel quand on lit une BD. Hein.
Parfois,
on s'aperçoit que c'est pas très bien écrit.
Oui,
là, c'est le cas.
Surtout pour une BD située à une époque précise où, à la fois, il y a un parler populaire, mais en même temps, on ne parle plus comme ça. Donc, c'est une ligne de crête sur laquelle il faut évoluer. C'est pas évident. Donc, on est d'autant plus ravis de le signaler.
Je précise au passage qu'Automne en Baie de Somme est paru en deux éditions différentes. Hein, une édition un petit peu plus grande que l'autre, avec une couverture, elle aussi, différente. C'est une parution grand angle, donc l'éditeur est Bambou, avec Philippe Pélaz au scénario et Alexis Chabert au dessin et aux couleurs. C'est lui qui a réalisé tout cela. Nous vous conseillons cette lecture, comme d'habitude, dans cette chronique, cette bande dessinée. Et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres propositions. Merci beaucoup Thierry et à la semaine prochaine.